manquent pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes deux pour animer cette émission. Il y aura moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et c'est une émission un peu spéciale, vacances, où nous allons principalement passer de la musique, donc un peu moins de news comparé à d'habitude. Et on s'est décidé aujourd'hui, Reynald, sur un thème de jeux vidéo, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait plaisir. Hein, c'est plus ou moins un plaisir, ici.
Tout à fait, puis ça rappelle pas mal de souvenirs de jeux, de gameplay.
Et on va traverser un peu l'histoire du jeu vidéo, des vieilles consoles, aux vieux PC, pour arriver peut-être aux dernières générations. Tout dépend de l'expérience qu'on a eue avec plus ou moins les consoles. Donc c'est une sorte de challenge back-to-back, où nous allons commencer par, on n'appelle pas ça des consoles, on appelle plus ou moins ça des PC, hein, des personal computers. À l'époque, on avait l'Amstrad, on avait l'Atari, on avait l'Amiga. Et je t'ai demandé, Reynald, de chercher des musiques qui étaient liées comme ça à cet univers. Alors, pour ma part, j'ai choisi. Oh, je lance direct. Hein,
comme ça, à brûle pour point, tranquille.
On y va direct. On avait parlé la semaine dernière d'un jeu qui était en 2D où vous incarniez un monstre qui devait comme ça dévorer des. Pour une fois, vous jouiez pas le héros et ça m'avait fait penser énormément à Flashback. Ce fameux jeu d'Amiga. Je dis fameux, comme ça fera plaisir à Dominique qui nous écoute.
En plus, il a pris un jeu à boire et il doit être dans sa deuxième gorgée maintenant.
C'est ça. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a marqué, qui était à la base basé sur Another World, hein, qui a un peu ses liens avec notre podcast, Another Podcast. Et Flashback, pour moi, c'était vraiment un jeu prenant où vous viviez une aventure. C'était comme ça, c'était en 2D. Et ça m'a toujours marqué par cet univers. Il y avait une évolution un peu dans la jungle. Vous découvriez de nouveaux monstres. Et à un moment, vous devez même récolter de l'argent pour pouvoir partir à un endroit spécifique. C'était vraiment bien fait. Et je vous propose un remix du thème de Flashback qui vous plongera forcément dans l'univers Amiga. C'était Flashback de 1992, ça ne vous rajeunit pas tout ça. Il y a même eu une sorte de remake en 2013 que personnellement je n'ai pas testé. Oh là là, on a encore de la musique. Mais ce n'est pas le choix que tu as fait. Reynald, je te laisse proposer une musique.
Plus particulièrement pour les trois noms de PC Personal Computer qu'on a à l'époque. Moi, j'étais plus sur le côté Amstrad, et c'est vrai que au niveau Amstrad, les musiques n'étaient pas vraiment top. Il y a eu quelques jeux qui sont sortis du lot, dont un qui m'a quand même me remémoré pas mal de souvenirs, qui est le Barbarian, le guerrier ultime, qui était, faisait vraiment référence au film du même nom avec Arnold Schwarzenegger.
C'est avec vrai, un de ses premiers films.
Tout à fait. Et avec la petite controverse, une des premières controverses du jeu vidéo de mémoire, je pense qu'il y en a eu sûrement avant, mais de mémoire c'était celle-là, où dans la version Amstrad du jeu, on te fournissait un poster et dedans t'avais la jolie Maria Whittaker qui était en position un peu lascive avec pas un maillot de bain pour l'époque, mais tout ce qu'il fallait pour l'être.
Ce qui restait du maillot de bain.
Ce qui restait du maillot de bain, mais en fait, c'était des parures dorées, enfin le côté le barbare au féminin, et qui avait fait vraiment couler beaucoup d'encre à l'époque. Et le jeu, surtout, était un jeu de combat de 1987, et c'était un des rares jeux où tu pouvais jouer en duo ou en solo, et décapiter ton adversaire.
Alors, j'en profite rapidement pour passer ce passage gore. Voilà. Parce que si on part maintenant à la génération d'aujourd'hui en leur parlant d'Amstrad ou même d'Amiga, il faut rappeler que l'Amstrad se jouait avec des cassettes. Mais des cassettes qu'on pourrait cassette comparer audio. À l'audio. Voilà.
Tout à fait. L'Amstrad CPC 464, exactement.
Et l'Amiga, c'était des disquettes. Et je pense que la génération d'aujourd'hui ne serait même pas insérée les choses dans le lecteur.
Après, tu as eu l'Amstrad 664 qui était déjà avec un lecteur disquette intégré, et le 6128 était la dernière version de l'Amstrad, il me semble, qui était un peu plus évoluée. Tout était à disquette après.
Alors, on va s'écouter Barbarian, Ultimate Warrior.
Qui est un remix de notre grand ami Dax, que vous pouvez facilement trouver sur YouTube.
C'était Barbarian. C'est un jeu qui date également.
1987, hein, comme j'avais dit. Vraiment un bon jeu de combat, un petit jeu d'épée, d'escarmouche, où on finissait par affronter le grand sorcier Drax de mémoire, qui s'appelait, pour sauver la princesse qu'on était venu récupérer.
Oh, je vous rassure, on est loin des jeux 2D, hein. Enfin des jeux 3D, pardon,
d'aujourd'hui. Ultra gore de maintenant, voilà, où s'il n'y a pas effusion de sang, voilà, c'est pas un bon jeu. Et là, ça avait fait justement la critique, était que quand on arrivait à faire le combat de décapiter son adversaire, qui était une mort immédiate, on avait une petite flaque de sang qui apparaissait, donc des pixels rouges, et c'était trop pour l'époque, ils avaient été automatiquement le colorier en vert pour justement ne pas blesser le côté des gamers, des enfants, vu que les jeux vidéo pour l'époque étaient réservés aux enfants.
C'est ça, ça a bien changé aujourd'hui. Maintenant, tu as le petite case Blood sur les jeux vidéo qui te permettent voilà, de rendre ça plus enfantin. Alors, j'avais lancé une catégorie Neo Geo, donc un peu jeu arcade, et je vois que tu as sorti un Joker, mais est-ce que les Jokers sont présents dans le back-to-back ?
Vu que je n'ai pas encore utilisé mon Joker Mr. T, je pense que les Jokers sont autorisés.
D'accord, d'accord. Alors, on passe outre la Neo Geo dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu as choisi comme musique ?
Alors moi, j'ai choisi en musique, quitte à faire de l'arcade, autant le faire bien. Et j'ai choisi un jeu de la série Borderlands, qui était un jeu qui m'a fait retourner sur le PC, enfin, une des séries de jeux qui m'a fait retourner sur le PC et rester scotché des heures et des heures dessus sur son côté gameplay arcade, même s'il a un petit côté RPG bien, bien fourni. Et surtout le 2 qui est vraiment, vraiment excellent, ne serait-ce que sur son côté scénario, même si tu oublies les quêtes annexes, les quêtes de remplissage, d'aller à un point A, revenir au point B, etc.
Alors on est quoi, dans un univers post-apo,
enfin oui et non, parce que t'es sur une planète qui est vraiment sur un univers post-apo, mais c'est la planète qui est comme ça, elle n'a pas subi ça. Mais ça reste un FPS de base, où tu as des millions, voire des milliards d'armes différentes, le but c'est des fourrières à tout va.
Et si je ne me trompe pas, hein, parce que je ne suis pas un expert de Borderlands, mais tu avais un univers 3D, mais quand même avec des textures légèrement 2D appliquées.
Et voilà, ce qu'on appelle le cel-shading.
Ouais. D'accord.
Et qui était pour l'époque une remise en question sur le moteur, on va dire 3D de l'époque, et qui avait fait fureur, vu que vraiment le côté un peu BD, un peu côté humoristique, surtout du jeu, après le côté FPS bien bourrin, ça a fait une bonne formulation, on a bien joué dessus.
Voilà, c'est dommage de cramer un des nombreux jeux Neo Geo que tu aurais pu choisir, mais du coup...
Non, en fait, comme je te dis, le Neo Geo, j'y ai pas touché, je n'ai pas fait aucun jeu de Neo Geo, donc là j'ai choisi un jeu PC sur lequel j'ai vraiment bien trippé, quel que soit le jeu de la licence, et là j'ai choisi un morceau qui est l'intro de Borderlands 2, là où on voit les personnages différents qu'on peut incarner, et c'est un morceau qui était du groupe The Eevee, et qui s'appelle Short Change Hero.
Qui va, à mon avis, envoyer du...
Pour ceux qui ont fait le jeu, vont rappeler énormément de choses.
Yeah. C'était The Heavy avec Short Change Hero, qui a également été utilisé sur une série qui s'appelait Strike Back. Alors malheureusement, pas lié à la Neo Geo, mais qui reprend un peu l'esprit, l'esprit arcade.
Voilà.
Effectivement. Tu t'en sors bien avec ce Joker, écoute.
Ah ouais. Tout à fait.
Alors, moi, j'ai choisi, forcément, si on parle de Neo Geo, on parle de choses qui m'ont touché plus ou moins tout au long de mon adolescence, hein, de ma jeunesse. Et c'est vrai qu'un des jeux de combat qui peut vous, si vous repartez dans le passé, un des jeux de combat qui vous a peut-être marqué, c'est Street Fighter 2. Hein, proposé par Capcom. Et c'est vrai qu'on se disait à l'époque, mais qu'est-ce qui va pouvoir concurrencer un jeu tel que Street Fighter 2, qui était très complet à l'époque. Et c'est là que SNK est arrivé un peu sur le marché en disant, bah écoutez, nous on va proposer un concept où on va prendre des personnages tirés de plusieurs jeux vidéo et on va les faire se battre entre eux. C'est un peu le Smash Bros qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur Nintendo. Mais sur Neo Geo, effectivement, ça a plu à de nombreuses personnes et ça a fait son chemin puisqu'on a encore des éditions aujourd'hui de King of Fighters qui sont disponibles. Alors, maintenant, on les sort sur PC. Hein. C'est vrai qu'il est très difficile maintenant de racheter des cartouches Neo Geo pour les gens qui ont encore une console également. Et ça va peut-être faire rager les puristes de King of Fighters qui sont plus ou moins sur le 98 ou voire les versions antérieures. Moi, celle qui m'a plu, c'est la version 2000. Du coup, eh ben, je sors la BO de King of Fighters 2000. Vous en doutez bien. Et ça va bouger. We'll be right back. C'était King of Fighters 2000 avec Come Up Smiling. À la base, je voulais prendre le thème de Terry, mais comme c'est un personnage que j'ai peu d'affection pour ce personnage un peu trop cheaté, du coup, voilà, j'ai choisi un autre thème qui est assez révélateur au niveau musical de ce qu'était King of Fighters. Hein, avec des... C'est vrai qu'il y a eu des. Tout comme Street Fighters, il y avait toujours des musiques assez prenantes pour les niveaux ou liés à des personnages. On enchaîne sur un nouveau thème. Et cette fois-ci, on va parler d'un thème, parce que c'est vrai que Neo Geo, Atari, Amiga, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Par contre, si je vous parle de Nintendo, si je vous lance sur la NES ou la Super NES, je pense que là, vous commencez à avoir quelques idées. Reynald, je te propose de ne pas commencer et je vais lancer. Je retiens bien. Je vais faire un peu un hommage à un membre de l'émission qui n'est pas là aujourd'hui, puisque la NES... Pour moi, ça reste quand même une console qui était extrêmement liée au RPG, au jeu de rôle. On a eu beaucoup de sagas qui sont nées sur la NES, telles que Final Fantasy, Fire Emblem, Chrono Trigger et d'autres séries. Et j'étais obligé de ressortir plutôt que de sortir un Mario qu'on peut voir d'habitude. Et je n'ai pas choisi le 5 qui est un de mes opus préférés. J'ai choisi le 6 pour faire un hommage à Dominique. Et c'est vrai que dans le 6, il y avait une histoire extrêmement prenante et il y avait également des musiques incroyables. Enfin, on parle de Nobuo Uematsu qui a fait la majorité des musiques de Final Fantasy.
Bah, surtout que les premiers Final Fantasy, tu n'avais que du texte qui apparaissait à chaque dialogue et les émotions des personnages étaient obligées d'être passées par la musique. Donc, les musiques étaient toujours très bien développées, très bien... Tu ne pouvais pas ne pas écouter de musique de Final Fantasy et te rappeler de quel Final Fantasy venait.
Et en plus, ils ont gardé les musiques de victoire au fur des épisodes. Alors non, à aujourd'hui, le petit quiz, on est à Final Fantasy combien? 15?
Je dirais 15 et 16. Ils datent au 16. Ouais. Ils doivent développer le 16. Mais je dis ça de...
Ici, on parle de Final Fantasy 6, sur lequel vous aviez... De grandes aventures comme d'habitude. Et on va s'écouter le thème de Terra. c'était Final Fantasy VI avec le thème de Terra. Et je vous laisserai chercher sur internet, est-ce qu'il y a un Final Fantasy VI ou un Final Fantasy III ?
De quelle version tu parles ? C'est ça,
voilà,
la question.
Je lance une polémique, mais je n'en rentre pas dedans. Reynald, quel jeu ? Alors, ici on parle, on élargit, hein, NES, Super NES, Nintendo. Quel jeu t'as plus ou moins marqué et quelle musique as-tu envie d'écouter ?
Alors moi, je suis resté sur la NES et la Super NES et j'ai choisi une musique sur le jeu de la Super NES qui m'a fait me lever de bonne heure étant gamin pour être sûr d'utiliser la télévision avant qu'on m'en chasse pour regarder les informations, etc. Là, un jeu qui m'a fait bien triper et c'est une des grandes licences de Nintendo. Je peux te laisser la faire deviner si tu veux. On a parlé de Mario, mais ce n'est pas le cas.
Ah, donc il reste qu'une. C'est pas Mario, donc c'est Luigi.
Donc je vais te taper après l'émission. Mais...
Et non, effectivement, on parle de Zelda ici.
On parle de Zelda et c'est le Zelda qui est sorti sur Super Nintendo, donc le Zelda 3 qui est Legends of Zelda Link to the Past. Et dans ce Zelda-là, ce qui était bien, c'est que tu faisais l'émission du monde des lumières, qui était le monde d'origine où tu étais, et tu finissais par comprendre que bah non, tu dois repartir dans le monde des ténèbres. Et tu te rends compte que là, il y a énormément de choses à faire pour finir le jeu et que c'est qu'une continuité. Et là, toi, quand t'es enfant, t'es « waouh ». Il y a plein de donjons encore à faire. Il y a peut-être des cœurs cachés. Il y a des épées à aller trouver à droite, à gauche, des objets. Il y a plein de choses à faire. Et pour me remémorer ça, j'ai retrouvé un petit remix un peu jazzy du thème du monde des ténèbres et qui est effectivement la version de Gux, G-U-X, possible de retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Overclocked Remix Video Game Music Community.
Avec les fameux OC Remix.
Tout à fait.
Fameux Dom Drink. We'll be right back. Legend of Zelda Link to the Past, avec une version un peu jazzy.
Ah, si on avait eu ça pendant le jeu.
Pourquoi pas. Alors, avant d'enchaîner sur le prochain thème, hein, on va rester un peu dans le Nintendo avant de partir chez Sega. Je ne sais pas si tu as vu, mais cette licence de Nintendo, et principalement Mario, commence à être un peu développée à plusieurs sauces, et notamment dans le jeu de société.
Tiens donc.
Bah, c'est bizarre.
Oh bah mince alors.
Et on a vu récemment une version de Jenga. Alors ce jeu où vous devez construire une tour et ensuite enlever des pièces.
Pour les remettre par-dessus sans faire tomber la tour.
Effectivement, il y a une version, cette fois-ci Mario, où vous avez un gros Bowser qui est dans la tour comme ça, et vous retirez, c'est assez sympathique. Le Monopoly.
Ouais, une énième version du Monopoly, pourquoi pas.
Et du coup, on s'est renseigné, il y a à peu près tous les jeux ont été adaptés en Mario. Donc c'est...
Tout à fait.
À quand le Dixit Mario, tiens?
Tu ne pourras jamais dépasser le... De mémoire, c'est le Hello Kitty, qui est Summum of the Summum de The Merchandising. Mais le Mario, où effectivement, tu as énormément de choses qui ont popé dessus.
Et... Ça s'étend tellement loin que maintenant, on a même des versions Lego de la SNES. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui un pack de Lego où vous pourrez construire une NES avec une télévision que vous allez construire en Lego. Et dedans, dans la télévision, vous verrez une sorte de Mario qui jump et vous aurez construit votre NES comme ça. C'est vrai que le confinement a un peu favorisé ces jeux un peu... solo, hein, tel que le Lego. Je pense que le Lego a quand même pris un peu d'envergure vu que les gens se sont dit bah, qu'est-ce que je vais faire, là, j'ai 3 heures à rien faire chez moi, bah, tiens je vais me construire ma petite station. Alors majoritairement les gens achètent peut-être du Star Wars, vont se construire le Falcon Millennium pendant 3 semaines je pense.
On le temps de le faire.
Pour ma part, moi, c'est l'ISS, donc la Station Internationale, qui a eu droit à sa version Lego également, qui a été vendue complètement. Donc, ils ont refait des éditions. Mais c'est incroyable à quel point Lego s'est élargi jusqu'à tout faire. Voilà. Il y a bientôt plus rien qui ne sera pas fait en Lego. Et on le voit bien avec le Nintendo, enfin la licence Nintendo, puisque là ils ont carrément fait une Super NES, qui est une idée folle. Et la dernière invention de Nintendo, c'est un piano à queue que vous allez pouvoir faire en Lego. Donc voilà, si ça t'intéresse plutôt que le Monopoly Mario, tu me diras. Quel jeu NES as-tu choisi pour ce back-to-back jeu vidéo? Mais tu as choisi la NES, donc on va enchaîner sur...
Voilà, c'est là on parlait justement de la jeunesse, mais quel était le concurrent à l'époque de la NES et de la Super NES justement? Il n'y avait que deux concurrents à l'époque, tout le reste était sous-traitants qui travaillaient pour eux, qui ont après pris leur ressort comme Sony avec le Station, mais à l'époque c'était juste Nintendo et Sega.
Alors dans la cour de récré, tu étais soit Nintendo, soit tu Sega. Étais Sega, tu étais voilà. Mario ou Sonic. Tu étais
en fonction des choix des parents de l'achat de la console.
Alors, qu'as-tu choisi pour ce thème un peu élargi, puisqu'on ne pouvait pas faire toutes les consoles? Tu as le choix entre, sors-moi une console Sega, tu as le choix entre la Master System, la Saturn.
Non, mais je reste toujours, j'ai toujours dit, quelles que soient les émissions qu'on a faites, au niveau de Sega, pour moi, ça reste la licence des Phantasy Star, et dont plus particulièrement le Phantasy Star 3, qui est donc une des rares licences... Une des rares licences de jeux vidéo...
Ça part vite ici. Hein.
Grave. Une des rares licences de jeux vidéo RPG qu'il y avait sur la Mega Drive. Je ne parle pas des Shining in Darkness ou Shining Force, mais vraiment un jeu de rôle type qu'on pouvait trouver sur le Nintendo. Et là, le Phantasy Star 3, avec son système de génération, m'a marqué parce que tu pouvais avoir des fins différentes et tu avais énormément de réponses sur les questions que tu pouvais te poser sur les Phantasy Star 1 et 2. Parce que le bien de la série qui était que tout se suivait. Le Phantasy Star 2 démarrait avec un personnage qui avait un cauchemar récurrent d'une héroïne qui défonçait un monstre, qui était en fait le combat final du Phantasy Star 1. Et le 3 ramenait énormément de réponses sur ce qui se passait sur le 1 et le 2, le pourquoi du comment, mais plus le système des générations qui se mettait en place. Ça a toujours été pour moi le RPG de cœur de la Mega Drive.
Donc on part avec Sega Rock avec un Phantasy Star 3. Ça fait un peu musique épique.
Ouais,
très bon choix ouais. Pour parler dans le Sega. Ouais. Et je vois qu'on a tous les deux fait attention à ne pas mettre de Sonic. Même si moi, ça, j'avais envie, puisque ces musiques de Sonic étaient particulièrement intéressantes. Et alors, vu qu'on parle de Sonic, est-ce que tu sais qu'il y a eu ce premier film, Sonic, qui va avoir sa suite en 2022? Donc, comment ça s'est passé donc? Ils ont sorti un premier trailer du film qui était lamentable et les gens ont tellement ragé sur le net.
Qu'il a été reporté.
Voilà, qu'ils ont demandé de refaire le personnage, ils ont dû remodéliser le personnage 3D. Ils ont sorti le film et bizarrement, ça a marché au point où Jim Carrey et ses magnifiques développeurs de jeux films d'animation vont pouvoir refaire un nouvel opus en 2022. Voilà, il y a des films qui se portent bien malgré tout. Alors, moi je pars sur Sega, c'est vrai que j'ai pas eu cette Master System, je n'ai pas eu cette Mega Drive, et j'ai eu la Game Gear. La Game Gear, comme certains pourraient dire.
La voleuse de piles, comme on l'appelle dans le milieu.
C'est vrai, et voilà. tu t'aperçois vite qu'il va falloir investir dans le transfo. Et un des jeux qui m'a le plus marqué, c'est Echo, le dauphin.
Tout à fait, je l'ai fait aussi sur Mega Drive à l'époque. Ouais.
Et bizarrement, récemment, je suis retombé sur des vidéos de gameplay où les gens rejouaient à Echo le dauphin. Et je me suis posé cette question existentielle, comment est-ce que j'ai pu subir ça en étant enfant ?
Dis-toi qu'à l'époque, sur la Xbox 360, ils avaient ressorti le Sega, où ils mettaient plusieurs jeux de Sega dessus, Master System, Mega Drive et compagnie, et il y avait Echo le Dauphin à l'intérieur. J'y ai rejoué, et à l'époque, même avec toute l'assistance de la console, de la Xbox 360, de la manette, etc., j'ai trouvé ça extrêmement dur, alors qu'à l'époque, sur Mega Drive, j'étais arrivé à la fin du jeu sans problème.
Peut-être pas sans problème, c'est juste que tu
idolâtrais peut-être, voilà, tu idolâtrais peut-être à l'époque le jeu, et donc tu faisais les efforts nécessaires pour le finir.
T'as coupé 6 mois de galère, et puis voilà, tu t'es dit, oh, c'était facile, tout compte fait. Et c'est un jeu qui m'a marqué, puisque c'était un jeu graphiquement qui était...
exceptionnel.
Voilà, qui était pour l'époque vachement bien, mais extrêmement difficile, pas approprié du tout au public qui allait y jouer, quoi. C'était ça qui était assez intéressant. Alors, on va s'écouter du coup un petit remix de la Méduse. ça ne ressemble pas du tout aux musiques de l'époque.
Ah non. Écho le dauphin, c'est très calme. C'est l'ASMR avant l'heure.
C'est ça.
C'est la zen attitude absolue.
La SMR un peu SM, parce que mine de rien, tu souffres pendant que tu joues. Alors, on a fait Nintendo, on a fait Sega. Est-ce que ça te dirait pas de partir un peu cette fois-ci sur la Dreamcast ?
La toute dernière console de Sega, effectivement.
Alors, je sais que je t'ai un peu doublé sur le jeu que j'ai choisi.
Mais ça m'a permis de retrouver un bon jeu d'antan, donc il n'y a pas de souci.
Alors, je te laisse annoncer la musique que tu as choisie pour la Dreamcast. Alors, la Dreamcast, alors, on parlait de la SNES avec cartouche. Généralement, la Master System, les Mega Drive, c'était un peu la même chose, cartouche. Mm-hmm. Et ici, on part enfin sur le format CD.
Sur le format CD et surtout...
Un peu révolutionnaire pour l'époque, même s'il paraît complètement obsolète aujourd'hui.
Et surtout, à l'époque, c'était la Dreamcast, c'était, je crois, la première console, mais bon... Peut-être que je me trompe, la première console qui te permettait d'aller sur Internet.
Et de lire des CD un peu piratés.
Ouais. Et donc, tu pouvais aller faire des recherches sur Internet avec, bon, à l'époque, c'était modem très faible par rapport à ceux de maintenant. Donc, après, tu te faisais engueuler parce que la facture était un peu importante. Mais il y avait cet échange-là. Et à l'époque, c'est vrai que la Dreamcast, je l'avais achetée avec le jeu qui allait avec et le pistolet qui allait avec. Et là, je ne parle pas du jeu Duck Hunt ou autre. Je parle de House of the Dead 2, qui était le jeu où tu prenais ton flingue et tu tirais sur tous les zombies. Et en fonction du chemin que tu pouvais prendre, parce que des fois tu avais un petit passage où tu avais un survivant derrière une grille avec un zombie qui l'attaquait, si tu tirais sur le zombie pour sauver le survivant et en même temps sur la grille pour l'ouvrir, le survivant te disait qu'il y avait un autre survivant plus loin, donc tu changeais ton itinéraire de jeu. Donc tu avais plusieurs chemins possibles. Donc plus tu avançais dans le jeu, plus tu t'es habitué, plus tu avais des chemins différents qui se débloquaient. C'était vraiment un jeu exceptionnel pour moi à l'époque. Et là j'ai choisi une musique qui est la musique du combat du magicien, qui est l'avant-dernier boss du jeu.
C'était The House of the Dead 2,
ah
effectivement.
Ouais. Puis là, la musique du boss étant un peu en continu en fonction de ta rapidité pour le tuer, sinon la musique tourne en boucle.
Et ça me rappelle également un jeu qui s'appelait Typing of the Dead, qui tout vous permet de travailler votre...
Mais là, c'était plus pour, sur la licence Resident Evil. Pour tuer un zombie, tu devais taper le mot qui apparaissait à l'écran, effectivement.
Allez, on avait encore plein de sections telles que PlayStation, PC, etc. On va quand même se quitter sur un dernier morceau de Dreamcast. Et forcément, la Dreamcast, hein, comme certaines consoles, était vendue avec un jeu hein, plus ou moins inclus. Et ici, forcément, celui qui vous a peut-être marqué, si vous avez une Dreamcast.
Crazy Taxi.
Yeah, let's go! Et on va se quitter sur Crazy Taxi. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être un vrai épisode cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.